Mais je crois que quand même j'ai raison dans ma présentation de la pensée de Foucault. J'ai raison car, si vous regardez les textes de plus près, Foucault distingue deux types de délinquance. Un type de délinquance qu'on ne pourra expliquer que plus tard, pourquoi il l'appelle comme ça, et qu'il appelle la délinquance illégalisme. Je dis juste, la délinquance illégalisme, c'est la délinquance comme notion qui permet de classer d'une nouvelle manière les infractions. Et de la délinquance illégalisme, il distingue la délinquance objet, avec un petit trait d'union. Quand il dit la prison produit la délinquance, le contexte est très clair, il s'agit toujours de la délinquance objet, à mon avis. Et c'est vrai que la délinquance, que la prison produit la délinquance objet. Et la délinquance objet, elle est seconde par rapport à la délinquance illégalisme, c'est-à-dire la délinquance classification des infractions. Donc, c'est dans un second temps, et là j'attire votre attention là-dessus parce que plus tard on retrouvera ce thème. Quand on en sera, qu'est-ce que ça veut dire la mort de l'homme ? On verra que dans les mots et les choses, on verra que les analyses historiques de Foucault, le plus souvent, sont binaires. En quel sens ? Elles distinguent le plus souvent deux temps successifs. On va se demander pourquoi cette binarité très très curieuse, très frappante. Là, on le voit dans Surveiller et punir. Premier temps. La prison et le droit pénal ont deux formes différentes, irréductibles. Mais dans un second temps, elles se croisent. Elles se croisent, à savoir, le droit pénal reconduit des prisonniers, c'est-à-dire refourmis perpétuellement des prisonniers, la prison reproduit perpétuellement de la délinquance. Bon, si bien que nous rebutons sur toujours la nécessité où nous sommes de maintenir ces trois points de vue, dans lesquels on essaie de se débrouiller, à savoir hétérogénéité des deux formes, négation de tout isomorphisme. Il n'y a pas isomorphisme entre le visible et l'invisible. C'est le premier point. Deuxième point, c'est l'énoncé qui a le primat. C'est lui qui est déterminant. Troisième aspect, il y a capture mutuelle entre le visible et l'énonçable, du visible à l'énonçable et de l'énonçable au visible. On l'a vu, c'est typiquement. La prison reproduit de la délinquance, le droit pénal reconduit à la prison ou refourmis des prisonniers. Là, vous avez capture mutuelle. Et je dis, vous voyez bien que toute la pensée de Foucault en fait devient irréductible et d'autant plus irréductible. L'analyse des propositions, l'analyse linguistique, que vous voyez que le visible et l'énonçable sont dans un tout autre rapport que la proposition et le référent, que la proposition et l'état de choses. D'une part, et d'autre part, le visible et l'énonçable sont dans un tout autre rapport, évidemment, que le signifié et le signifiant. Je ne peux pas dire La prison, c'est le signifié, le droit pénal, c'est le signifiant. Dit référent de la proposition. Ni signifié d'insignifiant. Foucault peut donc à bon droit estimer que sa logique des énoncés, doublée d'une physique de la visibilité, se présente sous une forme, ou plutôt sous deux formes nouvelles. Si bien que j'ai repris tout ça, enfin je ne sais pas, j'espère que je n'avais pas dit tel quel, en tout cas. Si bien qu'on se trouve devant, à ce niveau, je fais la soudure avec notre séance précédente, on se trouvait devant quatre confrontations à faire, en fonction de cette hétérogénéité fondamentale du visible et de l'énonçable. On se trouvait devant quatre confrontations. Première confrontation, c'était la confrontation avec Kant. Et pourquoi est-ce qu'elle était nécessaire? Elle était nécessaire pour une raison très simple, c'est que nous venait à l'esprit, comme ça, comme une espèce de petite buée, que, après tout, Kant avait été le premier philosophe à construire l'homme à partir et sur deux facultés hétérogènes. Une faculté de réceptivité et après tout, le visible ressemble bien à une réceptivité. Et une faculté de spontanéité. Et après tout, l'énoncé dont nous avons vu qu'il était déterminant, qu'il avait le primat, ressemble bien à une espèce de spontanéité. Donc, nécessité d'une confrontation avec Kant sous la question générale, peut-on dire que Foucault est d'une certaine manière néo-kantien ? Deuxième confrontation nécessaire, confrontation avec Blanchot, qu'on a souvent eu déjà l'occasion d'invoquer, puisqu'un des thèmes fondamentaux de Blanchot, c'est « parler, ce n'est pas voir ». Le « parler, ce n'est pas voir » de Blanchot est la formule de Foucault. Ce que nous voyons ne se loge pas dans ce que nous disons. Le visible ne se loge pas dans l'énoncé. Semble, par là même, immédiatement imposer cette seconde confrontation. Quel rapport entre Foucault et Blanchot ? Troisième confrontation nécessaire. Confrontation avec le cinéma. Pourquoi ? Parce que tout un aspect du cinéma moderne, et sans doute les plus grands auteurs contemporains, se définissent de la manière la plus sommaire, si l'on cherche le caractère le plus sommaire de ces auteurs, on peut dire ils ont introduit dans le cinéma une faille, une béance fondamentale entre l'audio et le visuel. Et c'est sans doute par là qu'ils ont promu l'audiovisuel à un nouveau stade, en faisant passer une faille entre voir et parler, entre le visible et la parole. Et chacun de vous est capable de reconnaître trois des plus grands noms du cinéma, là, dans toute évidence, du cinéma contemporain, à savoir Cyberberg, Les Straubes et Marguerite Duras. Or, je signale juste, parce qu'il y a matière si on avait le temps, mais que Foucault éprouvait évidemment pour le cinéma un intérêt très très profond, notamment pour le cinéma de Siderberg et pour le cinéma de Marguerite Duras. Je ne sais pas ce qui en était pour les Straumes, mais je suppose qu'il éprouvait aussi un très vif intérêt pour les Straumes. Enfin, Foucault fut mêlé presque directement à un film que j'ai vu, mais dont, que, hélas, je ne me rappelle plus, qui est le film que René Alliot a tiré de la recherche de Foucault sur Pierre Rivière. Pierre Rivière, qui était un cas de monomanie criminelle, c'est-à-dire qui avait liquidé tous les siens. Paysan qui avait liquidé tous les siens, Alliot en a tiré un film. Alors là, j'aurais très besoin, pour quand on en sera là, de quelqu'un, si quelqu'un ici se rappelle ce film, parce que, pour une raison très simple, c'est que Foucault a publié le cahier du petit gars de Pierre Rivière. Où Pierre Rivière explique tout ça, bon, sur un cahier d'écolier. Ça fait partie. C'était la première des vies, la vie des hommes infâmes, telle que Foucault rêvait. Pierre Rivière est un homme infâme, un petit homme infâme, tel que Foucault le voulait, en rêvait. Et bien, donc là, il y a un problème tout naturel. Quel rapport entre voir et parler ? Il y a le cahier de Pierre Rivière, et puis il y a son comportement visible avant le crime, et le crime visible. Dans quel rapport le film d'Alliot mettait ? Est-ce que c'est simplement une voix off qui lit le cahier ? C'est un problème. Et si ce n'est pas une voix off qui lit le cahier ? Je fais une hypothèse, c'est que si c'est une voix off qui lit le cahier, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout. Si c'est une voix off qui lit le cahier, c'est que la réalisation du film a été en retrait sur ce que souhaitait Foucault. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On verra comment procède le cinéma contemporain, dont on peut dire c'est un cinéma qui a complètement rompu avec la voix off. Et c'est forcé. Il est rompu, enfin ça, c'est le troisième point. Il fait chaud ? Il y en a qui fument encore ? Oh non, là, soyez gentils, hein. Vous allez avoir une récréation, hein ? Et vous fumerez pendant la récréation. Voilà. Mais qui fume ? Pardon, ça. Déjà, quand on en... Oui, vous ouvrez un petit peu, hein ? Vous êtes déchaîné. T'as vu ça qui fume ? Dénonce-le.
C'est pas capté, non ?
Considérez ici que vous êtes dans le métro.
Voilà.
Ah oui, mais il y en a qui fument dans le métro. Ça va mieux ?
Ouais, ouais.
Dernière confrontation. Bon, si l'on a bien mené ces trois confrontations, on est mûr pour se demander, mais quant au rapport, entre guillemets rapport, quant au rapport du visible et de l'énonçable, quelle est la réponse propre de Foucault ? Est-ce que c'est la même que celle de Kant ? Est-ce que c'est la même que celle de Blanchot ? Est-ce que c'est la même que celle du cinéma ? Ou est-ce qu'il y a une réponse propre de Foucault ? Ce qui nous mène à la quatrième et dernière confrontation, à savoir, pourquoi Foucault éprouvait-il tant de plaisir et tant d'affinité avec le poète Raymond Roussel ? Qu'est-ce qui tirait de Raymond Roussel ? Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de faire un livre sur Raymond Roussel ? Voilà. Voilà notre programme. Et on l'a déjà entamé, puisque la dernière fois, on disait, ben oui, il y a une très curieuse aventure kantienne. C'était donc la première confrontation. Il y a une très curieuse aventure kantienne qui est quoi ? C'est que Kant est le premier, je disais, à construire l'homme sur deux facultés hétérogènes, irréductibles. Et ces deux facultés irréductibles hétérogènes, c'est quoi ? C'est, vous vous rappelez, c'est la réceptivité et la spontanéité, mais qu'est-ce que c'est ? La réceptivité, c'est la faculté d'intuition. C'est-à-dire, par intuition, au sens kantien, il faut entendre quelque chose de très précis. C'est la forme sous laquelle tout ce qui m'est donné est donné. Quelle est la forme sous laquelle tout ce qui est donné est donné ? La réponse kantienne très rigoureuse, c'est que tout ce qui est donné dans l'espace et dans le temps. Donc, l'espace-temps, c'est la forme de l'intuition. Tout ce qui est donné est donné dans l'espace et dans le temps. L'espace et le temps sont la forme de l'intuition sous laquelle je saisis tout ce qui m'est donné et tout ce qui est donnable. Tout ce qui est donnable. Si on parle de quelque chose qui n'est pas dans l'espace et dans le temps, je dirais, cela ne peut pas m'être donné. Peut-être que je peux le penser, c'est tout à fait autre chose, ça ne peut pas m'être donné. Voilà donc la faculté d'intuition ou l'espace-temps comme première forme. Et deuxième forme, la spontanéité, cette fois-ci, c'est le « je pense ». Pourquoi est-ce que le « je pense » est une spontanéité ou une activité par différence avec la réceptivité ? Ben parce que « je pense », c'est l'énoncé d'une détermination. C'est une détermination. Alors, j'en étais là la dernière fois à cette considération, mais pourquoi est-ce que Kant construit ainsi l'homme et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? Pourquoi est-ce que cette idée des facultés hétérogènes, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Kant ? Là, ma réponse était très simple, la métaphysique ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. La métaphysique ne peut pas atteindre à ce thème des facultés hétérogènes. Et pour y atteindre, Kant opère ce qu'il appelle lui-même sa révolution, à savoir la substitution de la critique à la métaphysique. Pourquoi que la métaphysique, elle ne peut pas, on l'a vu la dernière fois, c'est que ce qui définit la métaphysique depuis le christianisme et son rapport avec la théologie, c'est la position de l'infini comme premier par rapport au fini. Seulement, si l'infini est premier par rapport au fini, comprenez, nos facultés sont nécessairement homogènes en droit. Oh, comme c'est curieux ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que si l'infini est premier par rapport au fini, nos facultés sont homogènes en droit ? Parce que nous sommes finis en fait, mais la finitude n'est qu'un fait. Ce qui est premier par rapport au fini, c'est l'infini. Et l'infini, c'est quoi ? C'est d'abord l'entendement de Dieu. l'entendement infini. Toute la métaphysique du XVIIe siècle est remplie de considérations sur l'entendement infini. Mais l'entendement infini, c'est quoi? L'entendement de Dieu. Dieu, c'est l'être pour lequel il n'y a pas de données. En effet, Dieu crée et crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il n'y a même pas du matériau qui lui soit donné. Dès lors, la distinction d'un donné et d'un agi n'existe pas pour Dieu. En d'autres termes, la différence entre donner et créer n'existe pas pour Dieu. La différence entre réceptivité et spontanéité n'existe pas pour Dieu. Dieu est uniquement spontanéité. Et qu'est-ce que c'est dès lors que le donner? Le donner, c'est une spontanéité déchue. Il n'y a de donner que pour la créature, parce que la créature est finie. Le donner n'est qu'une spontanéité déchue, en d'autres termes. Nous, étant des êtres finis en fait, nous disons, il y a du donné. Pour Dieu, il n'y en a pas. En d'autres termes. C'est uniquement notre finitude qui fait la différence de la réceptivité et de la spontanéité. Cette différence ne vaut pas au niveau de Dieu. Or, Dieu, c'est le droit. Je veux dire, c'est l'état de choses tel qu'il est en droit. Voilà, c'est très simple, vous voyez. Bon, qu'est-ce que fait Kant? Pour que le kantisme soit possible, il faut qu'il y ait une promotion de la finitude. Il faut que la finitude ne soit plus considérée comme un simple fait de la créature. Il faut que la finitude soit promue à l'état de puissance constituante. Voyez en quoi la finitude constituante, vous pouvez vous dire, c'est pour ça que Heidegger l'aime dans ce réclamé de Kant. Kant, c'est l'avènement d'une finitude constituante, c'est-à-dire la finitude n'est plus un simple fait qui dérive d'un infini originaire. C'est la finitude qui est originaire. C'est ça la révolution kantienne. Dès lors, ce qui accède au jour, c'est l'irréductible hétérogénéité des deux facultés qui me composent, c'est-à-dire qui composent mon esprit, la réceptivité et la spontanéité. Réceptivité de l'espace-temps, spontanéité du « je pense ». Enfin, l'homme devient difforme. Difforme au sens étymologique du mot, c'est-à-dire disforme. Il claudique sur deux formes. Il claudique sur deux formes hétérogènes et non symétriques. Réceptivité de l'intuition, spontanéité du « je pense ». On en était là. Alors on a repris, je crois, j'espère qu'on a ajouté des choses. Si bien que vous êtes prêts à juste faire un tout petit effort vers quelque chose d'un peu plus difficile. C'est que si vous avez suivi ce thème de Kant, vous pouvez vous attendre à quelque chose, c'est que de Descartes à Kant, de Descartes qui maintenait encore explicitement le primat de l'infini sur le fini, et qui par là était un grand penseur classique, c'est-à-dire du XVIIe siècle, eh bien, de Descartes à Kant, la formule célèbre du cogito, je pense donc je suis, change tout à fait de sens. Et on va voir, si je reprends ça, si si j'ai besoin de le reprendre, c'est parce qu'on va voir que ça concerne directement Foucault. Et après tout, la dernière partie de « Les mots et les choses » comporte un grand nombre de références à Kant et reprend le thème heideggerien. De la révolution kantienne consiste en ceci, en avoir promu la finitude constituante et rompu ainsi avec la vieille métaphysique qui nous présentait un infini constituant et une finitude constituée. Avec Kant, c'est la finitude qui devient constituante. Or, ce thème est très bien rappelé par Foucault, je ne crois pas que ce soit un des points nouveaux des mots et des choses, simplement Foucault l'utilise admirablement, et peut-être est-ce que, et sans doute c'est Heidegger le premier, et avoir défini Kant par cette opération de la finitude constituante. Et donc je dis à ce moment-là, il faut bien que le cogito prenne un tout nouveau sens. Et en effet, chez Descartes, là, je vous demande de faire très attention. Chez Descartes, le cogito se présente comment? Je suppose même ceux qui ne connaissent rien, donc je parle pour tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas du tout Descartes. Descartes nous dit d'abord « je pense ». Je pense. Qu'est-ce que c'est? C'est la première proposition. Proposition A. Je pense. Bon, il pense. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire, je pense? Je pense, c'est une détermination. C'est une détermination. Bien plus, c'est une détermination indubitable. Indubitable. Et oui, indubitable. Pourquoi indubitable? Parce que je peux douter de tout ce que je veux. Je peux même douter que vous existiez. Je peux même douter que j'existe. Moi, pourquoi je ne pourrais pas douter? Il n'y a qu'une chose dont je ne peux pas douter. C'est que je pense. Pourquoi que je ne peux pas douter que je pense? Parce que douter, c'est penser. Bon, il ne s'agit pas de discuter. Il faut dire, il faut essayer de comprendre. Je peux douter de tout, je peux douter que 2 et 2 fassent 4. Qu'est-ce que j'en sais, moi, 2 et 2 fassent 4? J'en sais rien. Je peux en douter. Mais je ne peux pas douter que moi qui doute, je pense. Donc, je pense, c'est une détermination indubitable. Voilà, c'est tout. Proposition B. On voit bien que le cogito, c'est pas « je pense, donc je suis ». C'est plus compliqué que ça. Proposition B. Je suis. Et pourquoi je suis? Pour une raison très simple, c'est que pour penser, il faut être. Si je pense, je suis. L'énoncé du cogito au niveau B, c'est donc « or, si je pense, je suis ». Proposition A, je pense. Proposition B, or, si je pense, je suis. Pourquoi que si je pense, je suis? Je pense est une détermination indubitable. Il faut bien qu'une détermination porte sur quelque chose d'indéterminé. Toute détermination détermine un indéterminé. En d'autres termes, je pense suppose être, suppose un être. Je ne sais pas en quoi il consiste cet être, je n'ai pas à le savoir. Je pense est une détermination qui suppose un être indéterminé. Je suis. Et le je pense va déterminer le je suis. Puisque c'est une détermination, le je pense. Mais la détermination suppose un indéterminé. que tout cela est beau. Je veux dire, il n'y a pas lieu, vous comprenez, est-ce que j'espère ce que je veux dire quand il n'y a pas lieu de faire des objections, c'est déjà tellement fatigant de comprendre. Je pense, je suis, ben oui. Si je pense, je suis quoi? À ce niveau, une existence indéterminée. Proposition C. Mais qu'est-ce que je suis? Vous voyez? La proposition C, c'est plus je suis, c'est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Ce qui veut dire, la détermination je pense détermine l'existence indéterminée je suis. La détermination, je pense, détermine l'existence indéterminée, je suis. D'où je dois conclure, je suis une chose qui pense. L'énoncé du cogito serait donc A, je pense. B. Or, pour penser, il faut être. C. Donc, je suis une chose qui pense. Voilà, en d'autres termes, je dirais que Descartes opère, là c'est très important pour moi, pour l'avenir, Descartes opère avec deux termes, je pense et je suis, et une seule forme, je pense. En effet, je suis, c'est une existence indéterminée, donc qui n'a pas de forme. Je pense, c'est une forme. La pensée est une forme. Elle détermine l'existence indéterminée. Je suis une chose qui pense. Il y a deux termes, je pense et je suis, et une seule forme. Je pense. D'où l'on conclut, je suis une chose qui pense. Ça va ? Et maintenant, écoutez Kant. Kant conserve A et B. Il conserve A et B. C'est-à-dire, il dira d'accord, je pense A. Et je pense est une détermination. Et il dira d'accord pour B. La détermination implique une existence indéterminée. Je pense implique je suis. En effet, la détermination doit bien porter sur quelque chose d'indéterminé. Et tout se passe comme si Kant éprouvait, à l'issue de B, un blocage. Il dit à Descartes, « Vous ne pouvez pas aller plus. Pas aller plus loin. Il dit, vous ne pouvez pas conclure, je suis une chose qui pense. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Descartes ne peut pas conclure? Parce que. C'est très simple. Ça. C'est vrai que je pense est une détermination, c'est-à-dire déterminée. Il détermine quoi? Il détermine une existence indéterminée. À savoir, je suis. Mais. Encore faut-il savoir sous quelle forme. Écoutez bien. Je vous dis là un secret comme un radical, une espèce de mystère. Encore faut-il savoir sous quelle forme l'existence indéterminée est déterminable. Descartes était trop pressé une fois de plus. Il Il a cru que la détermination pouvait porter sur l'indéterminé directement. Et comme je pense, la détermination impliquait « je suis l'existence indéterminée », il concluait « je suis une chose qui pense ». Rien du tout. Car lorsque j'ai dit « je suis l'existence indéterminée impliquée dans la détermination, je pense », je n'ai pas dit pour cela sous quelle forme l'existence indéterminée était déterminable. Et sous quelle forme l'existence indéterminée est-elle déterminable ? Ah, quand, c'est quand même très prodigieux comme pensée. Il faut que vous essayiez de le vivre. Vous pouvez presque précéder Kant. Sans l'avoir lu, vous pouvez devenir Kant. Car vous pouvez deviner ce que Kant est en train de nous dire. L'existence indéterminée n'est déterminable que dans l'espace et le temps. C'est-à-dire sous la forme de la réceptivité. L'existence indéterminée « je suis » n'est déterminable que dans l'espace et le temps, c'est-à-dire « je m'apparais dans l'espace et dans le temps ». C'est-à-dire l'existence indéterminée n'est déterminable que sous la forme de la réceptivité. Quelle histoire ! Pourquoi ? Je pense, c'est ma spontanéité, ma détermination active. Mais voilà que ma spontanéité, le « je pense », ne détermine mon existence indéterminée que dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire sous la forme de ma réceptivité. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une drôle de chose. En d'autres termes, la détermination ne peut pas porter directement sur de l'indéterminé. La détermination, je pense, ne peut porter que sur du déterminable. Il n'y a pas deux termes, la détermination et l'indéterminé. Il y a trois termes. La détermination, l'indéterminé, le déterminable. Descartes a sauté un terme. Mais alors, si mon existence indéterminée n'est déterminable que sous la forme de la réceptivité, c'est-à-dire comme l'existence d'un être réceptif. Je ne peux pas déterminer mon existence comme celle d'un être spontané. Je peux seulement me représenter ma spontanéité, moi être réceptif, qui ne suis déterminable que dans l'espace et dans le temps. Je ne peux que me représenter ma propre spontanéité et me la représenter comme quoi ? Comme l'exercice d'un autre sur moi. Comme l'exercice d'un autre sur moi. En d'autres termes, je ne sais plus quand, l'année dernière ou celle d'avant, je dis ça pour ceux, lorsque j'avais rapproché le cogito de Kant de la formule célèbre de Rimbaud, « Je est un autre ». Il me semble que j'avais raison à la lettre. Je est un autre. J'aurais raison à la lettre si Kant le disait à la lettre. Heureusement, Kant le dit à la lettre. Alors tout va bien. Kant le dit à la lettre dans la première édition de la Critique de la raison pure. Et je lis le texte lentement, vous devez le comprendre maintenant, facilement. Le « je pense » exprime l'acte qui détermine mon existence. Pas de difficulté, ça veut dire « le « je pense » est une détermination et par là même, c'est ma spontanéité. Le je pense exprime là qui détermine mon existence. L'existence est donc déjà donnée par là. L'existence indéterminée. L'existence est donc déjà donnée par là. Mais pas la manière de la déterminer. Comprenez, à mon avis, je suis sûr que la traduction n'est pas bonne, là, c'est pas gênant, mais pas la manière de la déterminer, ça veut dire pas le mode sous lequel elle est déterminable. L'existence est donc déjà donnée par là, mais pas la manière. L'existence indéterminée est donc déjà donnée par là, mais pas la manière sous laquelle elle est déterminable. Il faut pour cela l'intuition de soi-même, c'est-à-dire la réceptivité, il faut pour cela l'intuition de soi-même qui a pour fondement une forme. Qui a pour fondement une forme, c'est-à-dire le temps qui appartient à la réceptivité. Le temps, c'est la forme, en effet, sous laquelle mon existence est déterminable. Je ne peux donc pas, voilà l'essentiel de la forme de Kant, je ne peux donc pas déterminer mon existence comme celle d'un être spontané, mais je me représente seulement la spontanéité de mon acte de pensée ou de détermination, et mon existence n'est jamais déterminable que dans l'intuition, comme celle d'un être réceptif. Mon existence n'est déterminable que dans le temps, comme l'existence d'un être réceptif, lequel être réceptif dès lors se représente sa propre spontanéité comme l'opération d'un autre sur lui. Vous voyez comme c'est beau. Quand je disais, il y a une béance, c'est la même chose, il y a une faille dans le cogito. Le cogito, il est complètement fêlé chez Kant. Il était plein comme un œuf chez Descartes. Pourquoi ? Parce qu'il était entouré et baigné par Dieu. Et avec la finitude constituante, je marche sur deux jambes inégales, réceptivité, spontanéité. Et c'est vraiment la faille à l'intérieur du cogito, à savoir, le je pense, spontanéité détermine mon existence, mais mon existence n'est déterminable que comme celle d'un être réceptif. Dès lors, moi, être réceptif, je me représente ma spontanéité comme l'opération d'un autre sur moi, et cet autre, c'est je. Voyez, bon, qu'est-ce que fait Kant ? Eh bien, là où Descartes voyait deux termes et une forme, lui, il voit trois termes et deux formes. Trois termes, la détermination, l'indéterminé et le déterminable. Deux formes. La forme du déterminable et la forme de la détermination, c'est-à-dire l'intuition, l'espace-temps, et le je pense, la réceptivité et la spontanéité. Il y a deux formes hétérogènes. La réceptivité n'est pas une spontanéité dégradée, comme le croit ou comme essaie de le croire la métaphysique du XVIIe siècle. Il y a hétérogénéité entre les deux, si bien que moi, être réceptif, qui ne peut m'éprouver que dans le temps, je ne peux me représenter ma spontanéité que comme l'opération d'un autre sur moi. Bon, qu'est-ce que nous dit, en quoi Foucault est-il néo-kantien ? Foucault est néo-kantien parce que supposer les glissements suivants, je l'ai déjà signalé, mais je veux parler. L'espace-temps devient lumière. On dirait, pour parler vraiment très vite, on dirait Einstein est passé par là. L'espace-temps de Kant devient lumière et définit la forme de la réceptivité. Le visible au sens où on l'a vu, puisque ce visible ne se ramène pas aux données d'un sens. C'est la condition sous laquelle toutes les données sensorielles sont données. On l'a vu, la lumière n'est pas attachée ou n'est pas une dépendance de la vue, c'est la condition sous laquelle toutes les données des sens sont données. C'est la forme de la réceptivité. Et la forme de la spontanéité, c'est quoi? Ce n'est plus le « je pense », c'est le « on parle ». L'être du langage, ou le « il y a du langage ». C'est la forme de la détermination. Il y a deux formes irréductibles. Il y a deux formes irréductibles, et à cet égard, à l'issue des transformations qu'il fait subir au kantisme, Foucault se trouve nécessairement devant le même problème que Kant. Le même problème que Kant, ça veut dire quoi? Ça veut dire... entre la réceptivité et la spontanéité, entre la lumière et le langage, entre le déterminable et la détermination. Il y a béance ou non-rapport, et pourtant il faut bien qu'il y ait un rapport.